L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voici donc pour une nouvelle émission pour l'évangile pour le couple. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec cette fois-ci une réflexion à partir de la parole de Dieu sur la question du partage et du pardon dans la vie conjugale, des éléments fondateurs. Et effectivement, ce sont des piliers, nous sommes dans cette série des piliers de la vie conjugale. Et nous avions abordé la dernière fois la question de la parole de Dieu comme une nourriture fondamentale de la vie conjugale. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans ce thème du pardon et du partage avec Maud. Un texte qui est bien connu sur le pardon entre Pierre qui pose la question à Jésus.
Voilà, Pierre s'avançant lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. »
Voilà, et le Christ, en plus de reprendre dans ce chapitre de Matthieu 18, de reprendre et de développer toute cette l'importance du pardon, que nous avons à pardonner à nos frères, car nous-mêmes, nous sommes profondément pardonnés par le Seigneur. En prenant cet exemple du serviteur avec qui il a été remis 10 000 talents, et qui va épingler fortement son frère qui lui doit 5 autres talents, voilà, et donc voilà, nous sommes invités à pardonner parce que nous-mêmes, nous avons été immensément pardonnés. Et voilà, que le peu de miséricorde que nous avons exercé vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre conjoint, nous avons exercé cette miséricorde parce que d'abord le Seigneur nous a pardonné, il nous a remis beaucoup.
Voilà, donc avant d'aborder ce thème du pardon, le préliminaire du pardon, c'est donc le partage conjugal. Ce qu'on appelle le partage, c'est l'échange en profondeur. Si je veux apprendre de Jésus comment pardonner, il faut aussi commencer par comprendre et échanger entre nous pour savoir... qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit opéré, cette situation où on a été blessé, où on considère que l'autre nous a fait un tort? C'est vrai qu'il est important de commencer par s'écouter.
Alors pour cela, Maud, il y a quelque chose, justement, une situation qui t'est chère, c'est que, hommes et femmes, nous sommes d'abord des vis-à-vis.
Voilà, à la Genèse, nous avons été créés exactement, littéralement, il faudrait traduire face à face, c'est-à-dire visage à visage. Autrement dit, nous sommes appelés hommes et femmes dans le couple à nous regarder l'un et l'autre comme des personnes dignes de respect, bien sûr. Donc ce que ça veut dire, c'est que chacun, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il cherche à exprimer, est éminemment respectable. Ce qu'il dit est important pour lui, même s'il le dit maladroitement, et je dois rentrer dans cette écoute en profondeur de la pensée de l'autre, de son ressenti, même si je trouve que c'est pas justifié ou que c'est une idée bizarre. C'est, l'étape numéro 1 de l'écoute. Accueillir l'opinion et la position de l'autre comme elle est, mais l'accueillir avec un profond respect, et pas en pensant dans ma tête au fur et à mesure qu'il parle, ah ben disons que c'est complètement idiot ce qu'il est en train de me dire. Ça, c'est déjà la négation même de l'écoute. Donc commencez déjà par respecter l'autre et l'écouter.
Alors oui, mais d'abord pour écouter, il faut d'abord parler. Alors Maud, on n'a pas tous les mêmes facultés pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'exprimer. Et notamment les hommes, à des moments, on a peut-être plus de difficultés pour s'exprimer. Et vous, les femmes, parfois, vous avez plus que des facilités pour parler.
Voilà, alors ça dépend un peu sur quel registre on se situe. C'est vrai que sur ce sujet-là, on a un peu des efforts à faire dans le sens du silence. Mais peut-être que aussi cette abondance de paroles chez la femme est aussi une façon d'exprimer une attente profonde d'un échange à deux. Et que, en fait, dans un couple, s'il y en a qu'un qui parle et l'autre ne dit jamais rien, on ne peut pas percevoir comment il ressent les choses s'il ne s'exprime pas. Donc c'est aussi le travail de la femme de rentrer dans une écoute et puis une insistance parfois pour faire comprendre à son époux qu'elle a besoin aussi qu'il se livre, qu'il dise ce qu'il ressent au fond de lui-même. Et le fait de ne pas verbaliser ce qu'on ressent, ça crée aussi une difficulté supplémentaire pour prendre justement ce recul dont on a abondamment parlé quand on parlait de la liberté intérieure, par exemple.
Oui, mais c'est pour ça que c'est vraiment très important de commencer dès le plus jeune âge, je dirais, de la vie conjugale, de pouvoir parler ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir nommer ce qui habite mon cœur, de pouvoir, dès le début de nos fiançailles, dès le début de notre vie conjugale, de pouvoir effectivement aller comme à la pêche pour essayer de remonter nos filets, remonter la ligne de fond et remonter, entre guillemets, les poissons pour exprimer, identifier ce qui habite notre cœur, ce qu'on ressent de l'un, de l'autre, moi-même, ce que je ressens de l'autre. Et ça, je crois que c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, mais il faut commencer le plus tôt possible.
Puis je pense que pour les hommes, il y a parfois une difficulté à comprendre que se donner dans la parole, c'est-à-dire partager ce qu'on vit, c'est aussi une générosité, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre. Et souvent, certains hommes disent « mais moi, je n'ai pas l'intérêt de lui raconter ma vie ». Mais ce n'est pas une question de raconter ma vie. C'est une question de dire qu'est-ce que dans la vie tu as ressenti pour toi personnellement au fond de toi-même. Qu'est-ce que tu as entendu dans ton cœur. Et ça, c'est un peu le travail le plus souvent des femmes, mais parfois c'est inversé. Je me souviens d'une amie qui avait beaucoup soif d'entendre son mari s'exprimer et qu'il n'arrivait jamais à le dire. Et ils se sont mis une règle de se prendre une soirée tous les mois pour parler entre eux. Et les premières soirées qu'ils ont passées, elle est restée silencieuse pendant toute la soirée jusqu'à ce que son mari arrive à parler. Et ils ont attendu parfois, si je me souviens bien, une demi-heure, une heure avant que l'homme arrive à s'exprimer. Bon, c'est un peu une situation extrême, mais ça dit à quel point ce partage est une des nourritures du couple et de la communion conjugale, et comme il est premier dans la relation. Et trop souvent, on oublie cette étape du partage.
Alors, je crois aussi qu'il faut vraiment lier cette question de la communication, du partage, en vérité, avec cette question aussi de la sexualité. On n'a pas de problème aujourd'hui, peut-être que nos parents ou nos grands-parents l'avaient il y a peut-être 50 ans, pour vivre une sexualité et de ne pas avoir de crainte de se mettre nu l'un devant l'autre, de crainte de parler de sexualité. Par contre, pour parler de ce qui habite mon cœur, ce qui habite mon âme, ce que je ressens, les difficultés que j'ai, alors à ce moment-là, on a l'impression que c'est les nouveaux tabous, les nouvelles pudeurs. Et je crois qu'on l'avait bien vu pour bien identifier notre anthropologie. Nous sommes corps, cœur, esprit, âme. Tout cela fait un, tout cela est facette d'un même être. Et donc, si jamais nous n'avons pas de problème pour nous mettre nus l'un devant l'autre, pour nous unir intimement au niveau de notre sexualité, eh ben, de la même manière, nous devons également travailler à nous mettre entre guillemets nus, c'est-à-dire de pouvoir partager en vérité l'un devant l'autre, sans fausse pudeur, ce qui habite notre cœur. Il ne s'agit pas de le faire la première fois de manière de comme cela, de tout dire. C'est forcément progressif, et là il y a une progressivité dans la vie conjugale, dans le partage, heureusement, c'est un crescendo, mais nous avons vraiment à essayer de partager en vérité. Et effectivement, si ça ne se fait pas très facilement, il faut en tout cas croître dans cette exigence de partage en vérité l'un devant l'autre.
Voilà, puis quand on partage en vérité, on triche pas devant son conjoint, on dit ce qu'on ressent, et on a le droit aussi de reconnaître ses fragilités, ses faiblesses, pas pour que l'autre s'inquiète, mais pour que justement on se complète. Et si je sais qu'il y a un domaine sur lequel je suis sensible et que je vais mal le vivre, et que par exemple pour un problème de santé des enfants ou autre, moi en tant que mère je vais être inquiète, le fait de partager à mon époux ces angoisses qui m'habitent, lui va relativiser, va m'aider, va me rassurer, me consoler, et de sa part aussi être capable de me dire les endroits où lui il est fragile et où il s'inquiète. Et c'est dans ce partage-là que, avec l'exigence de la vérité, puis le courage aussi de la vérité, parce que c'est pas toujours facile de dire à l'autre ce qu'on ressent. Et il y a des moments, on a plutôt envie de cacher à l'autre une réaction qu'on a eue, parce que c'est plus facile de rien dire et de ne pas s'agresser. Mais sans s'agresser, il faut quand même arriver à rentrer dans ce dialogue.
Alors, c'est là où c'est vraiment une vraie exigence évangélique. Et c'est là où nous allons expérimenter aussi des situations qui sont peut-être différentes de celles que propose, entre guillemets, le monde. C'est-à-dire que nous allons pouvoir essayer d'aborder en vérité des situations qui peuvent être perçues comme douloureuses par l'un ou par l'autre, des vrais défis différents sur tel ou tel point, sur un discernement, sur une orientation par rapport aux enfants, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à un choix d'investissement, par rapport à beaucoup de choses très concrètes dans la vie. Effectivement, nous allons vivre des choses, nous ressentons des choses différemment, et il est important que l'un et l'autre puissent s'exprimer. Peut-être à tort, il n'a pas forcément la révélation dans son cœur, mais en tout cas que nous puissions parler en vérité de situations de perceptions différentes, en vérité l'un devant l'autre. Et nous avons à nous aimer et à nous respecter, même dans des éléments, dans des partages qui peuvent être douloureux.
Voilà, c'est d'ailleurs dans tous les mouvements conjugaux, c'est une des bases des engagements du couple pour nourrir le couple. C'est ces rendez-vous d'amour que l'on prend, qu'on bloque dans l'agenda parce qu'il faut vraiment se donner les moyens, où on va parler de choses plus importantes que d'aller chez le dentiste ou de porter la voiture au garagiste. C'est de rentrer dans une intimité profonde et c'est ça aussi qui va nous permettre de discerner quelle est la volonté du Seigneur sur nos vies dans le dialogue commun et dans l'échange.
Voilà, et ce partage est souvent d'ailleurs, effectivement, mais je crois qu'on l'a déjà souligné, mais on le rappelle ici, le partage est souvent aussi, je dirais, l'introduction aussi à une prière en commun par rapport à telle ou telle chose, par rapport à un différent, par rapport à un souci. Et voilà, on va déboucher sur la prière ensemble pour la question justement qui a été soulevée, pour que le Seigneur nous apporte sa lumière, son discernement, aussi son pardon. Et là, ça va être justement le deuxième thème qu'on va aborder dans 2-3 minutes. A tout de suite.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Don't bow in love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Don't bow in love. Our God is an awesome God.
Voilà, nous nous retrouvons pour cette émission L'Évangile pour le couple. Sur la question, nous avons longuement partagé, Maud, sur la question du partage. Et le partage, en fait, qui débouche forcément sur le pardon.
Voilà, le pardon qui est un des indicateurs qualité, si je puis dire, de notre relation à Dieu et puis à l'autre. Et dans le texte d'Évangile que nous avons cité au tout début, il faut rappeler, c'est cette parabole du débiteur qui doit beaucoup d'argent à son maître, et puis le maître lui remet, et puis il va étrangler celui qui lui doit peu. C'est une explication que donne Jésus par rapport à la demande de Pierre. Combien de fois dois-je pardonner? Alors dans un couple, on sait que 77 fois, 7 fois, fois 7 jours, fois 7 ans, fois... Voilà, toute notre vie, il va falloir arrêt rentrer dans cette dimension du pardon.
Voilà, quand Pierre pose la question à Jésus sur ce pardon 77 fois, 7 fois, c'est peut-être une parole qui s'applique particulièrement à la vie conjugale. Car dans notre vie conjugale, quelle est la personne peut-être qu'on doit le plus, à qui on doit demander le plus pardon, et qui nous devons recevoir aussi le pardon et exercer le pardon, c'est vraiment notre conjoint, parce que c'est vrai qu'on vit avec lui tous les jours, toute la vie. Donc effectivement, c'est là où on a peut-être le plus d'occasion de se blesser, de ne pas se comprendre. Voilà, et voilà. Donc c'est une parole qui est une vraie exigence pour nous. Et puis, est-ce que nous avons le choix?
Voilà, alors c'est vrai que si on accumule les blessures sans se pardonner, alors on rentre dans une situation qui est de plus en plus douloureuse, parce qu'à chaque fois qu'on va être à nouveau blessé, on va rajouter à la montagne, et un jour la montagne va s'écrouler sur nous. Donc je pense que c'est important de prendre comme règle de vie l'exigence d'un pardon quotidien si nécessaire, ou plusieurs fois par jour si nécessaire. Bon, ça nous a coûté quelques nuits blanches avec Alex de prendre cet engagement de se pardonner toujours avant de s'endormir, mais de fait, on ne regrette pas d'avoir pris cette décision un peu volontariste au départ et qui en fait est un chemin de vie aussi pour nous.
Alors c'est vrai qu'à partir du partage, parce que nous pouvons communiquer, nous essayons de communiquer, c'était une des exigences pour construire, on vous rappelle, cette cathédrale conjugale, effectivement, à partir du partage, on va identifier qu'on a pu blesser l'un, blesser l'autre, ou alors on en est parfaitement conscient déjà dès le départ, parce qu'on sait qu'on a eu un propos, une attitude qui a été blessante. Et donc c'est souvent sur ce terrain de la communication, du partage, qui fait qu'effectivement nous pouvons aussi pardonner. Et cette exigence du pardon est absolument essentielle pour pouvoir constamment reconstruire et non pas accumuler toute une série de, entre guillemets, de poubelles qui va à ce moment-là s'accumuler, fermenter et être très nauséabond dans notre vie. Donc le pardon est vraiment essentiel pour que notre vie conjugale soit supportable et au contraire qu'elle puisse même grandir malgré toutes nos difficultés et nos pauvretés. Mais Maud, je crois que c'est important pour préciser l'exigence, cette exigence du pardon, de préciser ce qu'est le pardon et ce
qu'il n'est pas.
Ce qu'il est et ce qu'il n'est pas.
Voilà. Il ne faut pas confondre, par exemple, pardonner et oublier. Ce n'est pas parce que je pardonne que j'oublie au sens que ça n'a pas existé. Non, il y a eu une altération dans la relation et donc la relation doit être renouée, repartir sur une autre base. Mais on n'oublie pas, on n'efface pas. Il faut par contre pardonner dans le sens que ça n'entraîne pas une sorte de suppuration de la blessure. Donc le pardon vient nettoyer le terrain. Mais il n'est pas non plus... Ça signifie pas non plus qu'on nie ce qui s'est passé. Ah non, 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 ben je me suis trompée en fait. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas vrai. Il faut avoir le courage de la vérité. Oui, j'ai été blessée. Oui, je reconnais que j'ai souffert. Je n'occulte pas les faits, mais je les regarde en face et je partage avec l'autre pour que justement il puisse y avoir un regard de tendresse et d'amour sur cette situation.
Également, pardonner n'est pas simplement un acte de volonté. Ma volonté va être exercée dans le fait que je pardonne ou que je ne pardonne pas. Mais à des moments, parce qu'il y a accumulation, parce qu'il y a intensité, parce que ça m'a été trop douloureux, etc. C'est aussi un don qui est fait. C'est là aussi où l'exercice de la foi est vraiment important. C'est aussi pardonner, c'est aussi une grâce à mendier. C'est une grâce aussi à recevoir. Et c'est tout aussi l'importance du sacrement de réconciliation. Et c'est aussi toute la question de la prière. C'est vraiment ça qui est vraiment important de pouvoir souligner ici. C'est que le Christ vient nous aider à pardonner ce que humainement nous n'arrivons pas à pardonner. À un moment on se dit, oui c'est vrai que c'est par rapport à telle ou telle chose, il faudrait que je... Mais j'arrive pas à pardonner. Et c'est le Seigneur qui nous donne cette grâce et par la foi qui nourrit en nous finalement cette force de pouvoir et l'amour afin de pouvoir pardonner.
Voilà, et puis quand on pardonne, on rentre aussi dans quelque chose qui est en processus, en cheminement. On ne pardonne pas un instant, c'est pas une baguette magique, pouf, tout est terminé 5 minutes après. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une recréation d'une relation à partir de cette blessure et puis de ce pardon donné. L'autre reconnaît sa blessure, on accueille le pardon, on se pardonne mutuellement et on repart et on reconstruit à partir de ça quelque chose de plus fort. Donc on renonce pas à ses droits, on se décharge pas de ses responsabilités, on ne cherche pas à écraser l'autre ni à l'humilier, mais on reste dans une démarche, disons, de laisser le Seigneur pénétrer notre cœur pour qu'on rentre dans cette dimension du pardon et qu'elle atteigne toutes les dimensions de notre être.
Oui, c'est important de bien souligner que le pardon, ce n'est pas aussi excuser la personne. Nous devons assumer entre guillemets nos responsabilités parce que nous sommes des hommes et des femmes libres, même si jamais effectivement on est habité par le péché, par nos limites, etc. Nous sommes des personnes responsables, je pense, par rapport à la vie conjugale, par rapport à des, on l'a abordé, je crois qu'on a passé 2 émissions l'année dernière sur ces questions, notamment de l'adultère, par rapport à la sexualité, à l'action de l'impureté, l'action de l'adultère, c'est des questions. Il faut assumer cette question-là. On n'est pas excusable en tant que tel. On peut l'expliquer peut-être, mais je crois que le pardon, ce n'est pas l'excuse. Et confondre pardon et excuse, on va alors simplement psychologiser, trouver des excuses, etc. Eh ben, il va manquer fondamentalement quelque chose. Pardonner, c'est un acte d'amour. C'est oui, je reconnais que telle ou telle chose effectivement est un mal, que là tu m'as blessé, et on va pas dire que c'était pas blessant ou que tu es excusable, non. Mais malgré ta responsabilité, malgré le fait que tu aies fait du mal, eh ben je te pardonne. Et moi-même en face, celui qui a exercé le mal, celui qui a été source de ce mal, de cette souffrance, eh ben voilà, il reconnaît, voilà, je reconnais que j'ai fauté, je me reconnais humblement devant toi, bah oui, je ne suis pas parfait, et donc voilà, je ne suis pas excusable en tant que tel, il y a des explications, mais c'est pas forcément excusable, mais je reçois ton pardon et je te remercie de me pardonner, et je prends ça vraiment comme un acte d'amour. Voilà, ça c'est, je pense, le travail vraiment évangélique, hein. Alors que peut-être que le travail du monde va chercher 2 choses, tout expliquer, tout psychologiser, et puis voilà, tout, y a pas de pardon, ça va être des explications. Ça va être te déresponsabiliser, te déculpabiliser. Alors qu'au contraire, ce qui fait finalement grandir l'homme, c'est dire ce qu'il lui est, c'est dire ce qu'il est, dire à l'homme et à la femme, bah, à un moment on est pécheur, et à un moment il faut se reconnaître pécheur, pas simplement devant Dieu, mais aussi devant l'autre, et le premier des autres, bah, c'est son conjoint.
Voilà, en tout cas ce qui est certain, c'est que même si c'est difficile de parler de ce thème, parce que bien sûr qu'il y a des situations extrêmement douloureuses où le pardon est vraiment pas aisé à donner, et ça on le comprend fort bien, mais il me semble que si on regarde par exemple toutes les conséquences d'un pardon qui n'est pas donné, eh bien on se rend compte que finalement c'est un chemin de vie ce pardon, même s'il est exigeant et difficile. Quand on donne pas un pardon à quelqu'un, on rentre dans une espèce d'esclavage intérieur, parce que on est comme lié par ce qui s'est passé, on est paralysé, on est rempli d'un esprit de haine, de vengeance, de rancune. C'est un poison, ça pourrit la vie. On connaît des personnes complètement bloquées dans leur évolution, dans leur croissance, pleines d'amertume, etc. Et tout ça, ça bloque complètement la vie, parce que justement le pardon a été refusé. Et on sait à quel point un travail de guérison et de libération de Dieu dans nos vies, ça passe aussi par des reconnaissances de blessures et le don du pardon. Et être capable de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, même si c'est un chemin extrêmement douloureux, c'est un chemin de libération. C'est comme une blessure qu'on accepte, on accepte d'enlever le pansement qui colle à la plaie pour que le Seigneur nettoie et pardonner à ceux qui nous ont vraiment profondément blessés.
Voilà, c'est pour ça que entrer dans le pardon avec le Christ en coupe, c'est vraiment désirer lutter contre tout ce qui nous empêche personnellement et en couple de vivre vraiment la communion conjugale. Et c'est vraiment en constatant les fruits de cette démarche de miséricorde, l'un pour l'autre et l'un pour l'autre avec le Seigneur, que nous pouvons vraiment vérifier que le pardon porte du fruit dans nos vies et que malgré nos faiblesses, nos fragilités, eh ben nous construisons et nous grandissons dans l'amour. Et c'est là où on se rend compte que avec le pardon, avec Dieu et avec ce pardon, tout est possible.
Voilà, on peut repartir sur une relation renouvelée en acceptant de ne pas se retourner en arrière et de ne pas rester figé sur des blessures qu'on a relues ensemble et qu'on a remis au Seigneur.
Voilà, en tout cas, c'est cette bénédiction du pardon et de la miséricorde de Dieu que nous invoquons sur chacun de vos couples, chacun des conjoints qui nous écoutent, des enfants pour vos parents. Voilà, que la bénédiction du Seigneur soit avec vous et qu'il nous conduise en toutes choses. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The intimate friendship, the Holy Spirit.